êtes venus nombreux. On m'a chargé de présenter le conférencier ce soir. Donc on a le plaisir d'accueillir à l'Espace Mendès France René Vignebretière. Donc René est professeur à l'École normale supérieure des céramiques industrielles de Limoges. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette conférence s'inscrit dans le cadre des manifestations organisées pour l'année internationale de la cristallographie, puisque l'ONU a décrété 2014 comme étant l'année internationale de la cristallographie. Voilà, donc il faut savoir que René, en dehors de sa casquette d'enseignant-chercheur, a de multiples casquettes, et qu'il est actuellement président de l'Association française de cristallographie, vous avez le logo ici, et également président du comité de pilotage de l'année internationale de la cristallographie, c'est-à-dire c'est le comité qui coordonne l'ensemble des manifestations qui sont organisées en France autour de cette année mondiale de la cristallographie. Voilà, donc ce soir tu vas nous relater l'histoire de la cristallographie, donc depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du XXe siècle, avec la découverte des quasi-cristaux. Peut-être que tu vas nous expliquer pourquoi 2014 est l'année internationale de la cristallographie.
Sûrement.
Voilà. Donc, je te donne la parole.
Ben oui. Pour l'enregistrement.
Donc ça marche. Merci pour l'introduction. Bonsoir à tous. Donc moi je suis très heureux d'être ici et je viens souvent à Poitiers pour d'autres raisons. Donc là je vais vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qui est la cristallographie. Et donc essayer de vous brosser l'histoire de cette science éminemment transversale. Évidemment, il faut faire des choix. Donc je ferai des choix que certains jugeront arbitraires, mais en essayant de préciser quelques points marquants de l'histoire de cette science. Alors, la cristallographie, c'est quelque chose, donc, comme son nom l'indique, ça correspond à l'étude des cristaux. Et donc, lorsqu'on fait de la cristallographie ou qu'on essaie de parler de cristallographie aux uns et aux autres, on a, dès le début, de facilité, c'est que les cristaux sont essentiellement attractifs parce qu'ils sont beaux. Donc, finalement, l'objet de l'étude est quelque chose qui a une allure sympathique, qui est joli, qui est beau. Donc voilà quelques exemples de cristaux. Et d'une manière très générale, les cristaux sont associés dans l'esprit collectif à quelque chose qui est lié à la perfection et à la symétrie. Donc déjà, quand on est cristallographe et qu'on se lance dans l'étude, ça, on a un point positif, une appréhension positive de l'extérieur. Donc ça, c'est intéressant. Alors voilà, on peut regardez des cristaux comme ça, donc bien sûr c'est lié aux pierres précieuses qui sont en fait des cristaux ayant des formes et des actions vis-à-vis de l'optique particulière. Mais il y a aussi des poètes qui ont essayé de faire quelques trucs là-dessus. Donc je vous ai mis ici quelque chose de Raymond Queneau et puis aussi de Stendhal qui essaie d'utiliser les mots, donc les cristaux ou le caractère cristallin comme un élément donc, de beauté ou de perfection. Donc on trouve ça dans différents exemples, j'ai pris ces deux-là. On peut aussi voir un livre de Georges Sand qui s'appelle « Voyage dans le cristal ». Donc c'est un petit livre qui décrit un parcours d'un personnage à l'intérieur d'une géode d'Améthyste. Et donc j'ai noté donc, en lisant ce livre cette phrase donc, que finalement la nature fait quand même bien les choses. Ce qui est toujours sympathique dans les temps dans lesquels nous sommes. Finalement, on voit qu'il y a des choses qui se passent bien. D'accord ? Voilà. Alors, les cristaux, c'est quelque chose pour tout le monde qui est un petit peu particulier, parce qu'il n'y a pas de notion de taille. Les cristaux peuvent être extrêmement grands. Vous voyez, ce sont les cristaux sans doute naturels les plus grands du monde. Ce sont des cristaux de gypse qui ont été découverts dans une grotte au nord du Mexique et qui font donc plusieurs mètres, qui atteignent presque la dizaine de mètres. Ce sont des monocristaux qui ont poussé comme ça dans des conditions extrêmement stables pendant des centaines de milliers d'années dans l'eau, en fait, et qui ont été découverts fortuitement par des mineurs. Les cristaux peuvent être aussi extrêmement petits. C'est toujours des cristaux, tout aussi parfaits, tout aussi beaux. Mais là, ce sont des nanocristaux qui font 3 nanomètres de diamètre. C'est des oxydes dans un verre de silice. Et aussi bien ça que ça, c'est un cristal. c'est-à-dire un empilement régulier d'atomes. On verra ça plus loin. Alors, qu'est-ce que cristallographie ? Le mot cristallographie, donc on va voir dans un instant que les cristaux, c'est quelque chose qui est étudié et qui attire un certain intérêt depuis fort longtemps. Le mot cristallographie est plus récent. Il date de cette année 1723. Elle a été introduite par Capeller, qui était un cristallographe, quelqu'un qui était surtout minéralogiste, donc qui a écrit ce fascicule et qui s'intéressait donc à la description géométrique. Vous voyez que dans cristallographie, il y a l'idée qu'on va décrire graphiquement les cristaux. Donc c'est quelque chose qui se rapproche au dessin. On représente les formes. Le mot forme ou la notion de forme va être important dans ce que je vais vous raconter par la suite. Alors le terme lui-même de cristal a une origine étymologique intéressante si on veut comprendre les choses. Cristal, en fait, ça vient du froid. C'est la même racine grecque que cryos, donc c'est le froid. Alors pourquoi le mot cristal est-il lié au froid ? C'est pour une raison finalement logique, si on fait abstraction de la connaissance que nous avons maintenant. En fait, les anciens ont regardé les cristaux. Et où est-ce qu'on trouve des cristaux ? Par exemple, ce qu'on appelle le cristal de roche. Le cristal de roche, c'est quoi ? C'est du quartz, en fait. C'est des cristaux de quartz. Et qu'est-ce que c'est que les cristaux de quartz ? C'est des choses comme ça, ou comme ça. Et à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à de l'eau qui a gelé. Mais alors, elle a gelé effectivement de façon extrêmement forte, puisque même quand il fait chaud, elle continue à avoir le même état. Donc on va appeler ça quelque chose de très 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 froid, c'est-à-dire un cristal. Donc voilà le raisonnement et la logique étymologique de ce mot, donc cristallos, d'où vient le mot que nous utilisons actuellement, cristal. Alors, en fait, ce mot-là, dans notre civilisation, avait disparu à travers le Moyen-Âge et puis a été repris simplement vers le XVIIIe siècle. Entre les deux, en tous les cas dans les civilisations occidentales, on parlait plutôt de pierre angulaire. Et c'est l'autre caractéristique des cristaux, c'est qu'ils présentent des faces et des formes spécifiques avec des angles particuliers. Donc dans la littérature 15e, 16e siècle, on va trouver plutôt le mot de pierre angulaire auquel va se substituer progressivement le mot cristal. Alors, revenons maintenant aux anciens. Donc, la cristallographie et les cristaux ont sans doute un lien avec les solides platoniciens. Donc, on raconte donc Platon. Alors, Platon a décrit donc les 5 polyèdres convexes réguliers qui existent. Donc, et on raconte qu'il les a décrits à partir de l'observation des cristaux d'une mine qui se trouvait près d'Athènes. En voyant ces formes particulières, il a essayé de proposer une représentation géométrique du monde, donc c'est la caractéristique de la philosophie de Platon, donc représentation géométrique du monde dans lequel tout peut se résoudre à donc ces 5 polyèdres réguliers. Alors quels sont-ils ? Donc voilà, ça dépend du nombre donc de faces. Donc tétraèdre, hexaèdre, octaèdre, icosaèdre ou dodécaèdre, ce sont les 5 solides de Platon, et il propose d'associer à chacun de ces solides eh bien, un élément. Alors il y a 4 éléments, donc le feu, la terre, l'air et l'eau. Donc pour Platon, ce n'est pas un problème. Le cinquième, eh bien, c'est le tout, c'est-à-dire la quintessence, celui qui contient tout. Et vous noterez que ce n'est pas tout à fait le hasard, puisque c'est celui qui est le plus proche de la sphère. Donc, si on prend ces cinq solides de Platon, ou polyèdres de Platon, et qu'on fait un minimum de cristallographie, on peut s'apercevoir qu'on peut les classer en 3 catégories, parce que, en fait, en associant à chacun de ces solides, comme j'ai fait dans ce schéma ici, donc vous avez le cube, hexaèdre, et si vous tracez le solide dont les côtés sont des lignes entre les faces, entre le centre des faces du cube, et bien vous obtenez celui-ci. Et qu'est-ce que c'est mathématiquement ? Ça, c'est le polyèdre dual. Donc si on classe les polyèdres comme ça, le tétraèdre étant son propre dual, on obtient 3 catégories qui sont en fait les 3 catégories d'arrangement utilisées en cristallographie. Donc le groupe tétraédrique, le groupe octaédrique et le groupe icosaédrique, donc avec ces 5 solides de Platon dont l'un est son propre dual. J'ai vu qu'il y a pas mal de scientifiques dans la salle, donc je continue. Alors, on va faire un saut. Je vous ai dit que les sauts étaient plus ou moins discutable. On va en faire un assez consistant pour arriver à un personnage très important qui est bien connu pour d'autres aspects, donc qui est Johannes Kepler, donc bien connu pour son système de représentation des planètes. Mais il se trouve qu'il a fait de la cristallographie, sans l'appeler comme ça, dans des conditions très particulières. Alors, donc c'était à Prague, et il cherchait à comprendre la raison qui explique la forme des cristaux de neige. Alors, il raconte, donc il a écrit un petit fascicule en latin, qui a été traduit en français par les éditions du CNRS dans les années 70, et il explique qu'il voulait aller porter la bonne année à son mécène, celui qui donc lui permettait de vivre, en fait, en lui donnant de l'argent. Et puis il marchait à Prague sur le pont qui allait dans la direction. Et puis il a cherché qu'est-ce qu'il pouvait offrir à son mécène. Et en marchant, eh bien, il tombait de la neige. Alors il a vu les flocons de neige. Et il a imaginé, c'est ce qu'il raconte dans l'introduction du livre, qu'il allait offrir à ce mécène eh bien, l'interprétation, l'explication de pourquoi les cristaux de neige ont-ils une forme hexagonale. Et donc, tout en cheminant, il a proposé une explication. Donc, c'est pour ça que le livre a ce nom, donc « Les étrennes de nouvelle année ou la neige sexangulaire ». Donc, pour mener son raisonnement, Kepler s'est dit « Bon, ben, voilà, j'observe un objet hexagonal. Y a-t-il d'autres objets qui ont des formes similaires qui pourraient me servir de modèle et que je pourrais être amené à mieux comprendre ?» Premier objet, le fruit, la grenade, qui est un empilement. À l'intérieur, il y a un empilement de billes assez régulièrement positionnées. Et puis, deuxième objet, plus caricatural, le nid d'abeille. Donc, Kepler commence à se demander pourquoi le nid d'abeille présente-t-il des formes internes hexagonales. Donc, première idée... Ben, c'est quand même très difficile d'imaginer que le fait que ça soit hexagonal, c'est lié à la nature même de ce qui constitue les parois de ces cellules. Donc la cause ne peut pas être liée à la nature même de ce qui constitue les parois du nid d'abeille. Donc première étape dans le raisonnement. Ensuite, il continue, il se dit, bon, de toute façon, forcément, alors Kepler, c'est quelqu'un d'extrêmement croyant. Donc c'est un objet parfaitement régulier, donc seul Dieu peut être à l'origine de la chose. Mais quand même, pourquoi Dieu a fait ça ? Pourquoi ? Il y a bien une raison qui a amené Dieu à faire ceci, quand bien même il n'y a que lui qui peut l'avoir fait. Il faut trouver une logique. Dieu ne peut pas être irrationnel, il y a une logique. Donc pourquoi il en est ainsi ? Alors, il remarque, je vous rappelle, tout en cheminant, dit-il dans son livre, il remarque que finalement, si on prend l'hexagone, eh bien, c'est la façon de remplir un espace plan avec, en laissant le plus de place entre les parois. Donc finalement, ça doit être lié au fait qu'il faut laisser de la place. Alors, maintenant, comment ceci peut-il s'organiser ? Est-ce qu'il y a une raison fondamentale, externe ou interne, qui explique cette organisation particulière ? Autre que donc cet empilement. Alors, il va essayer d'écrire ça. Première idée, une raison extérieure, les cristaux de neige, quand est-ce que la neige apparaît ? Ben, lorsqu'il fait froid. Donc, la cause externe pourrait être le froid. Une idée assez logique. Oui, mais comment le froid peut-il induire le fait qu'il y ait 6 branches de cette façon ? Donc, comment, lorsque l'eau qui devient neige tombe, il pourrait y avoir un mécanisme qui, par le froid, fait qu'il y a 6 branches ? Kepler ne trouve pas. Donc dit, ce n'est pas une cause de ce type-là. Alors c'est assez marrant parce qu'on pourrait maintenant imaginer des raisons. Hein, si on réfléchissait un petit peu à la thermodynamique hétérogène, on se trouverait sans doute quelques raisons. Mais lui, évidemment, il n'en est pas là. Donc il dit, mais c'est pas une cause externe, mais c'est une cause interne. Et donc cette remarque est absolument fondamentale. Elle va être à la base de la cristallographie que nous connaissons, avec d'autres intervenants dans ce genre de discussion, mais lui, c'est l'un des principaux, si ce n'est le principal, de cette époque, en tous les cas. Et il va imaginer de décrire, puisque la cause est interne, eh bien, il faut trouver une logique. Et l'idée géniale de Kepler, c'est de décrire le cristal de neige comme un empilement d'objets élémentaires tous identiques, complètement théoriques, complètement. Et donc, il va réaliser ces schémas et dire, voilà, dans un plan, je peux mettre les sphères. Je peux dire que les objets élémentaires, c'est des sphères. Je les mets les uns à côté des autres. Voilà, première possibilité. Deuxième possibilité, c'est celle-ci. Et on va essayer de décrire la chose en maintenant la dimension, la troisième dimension. Et donc, en rajoutant un deuxième plan, eh bien, la façon la plus habile pour remplir l'espace, celle qui est la plus dense, dirons-nous maintenant, eh bien, c'est de mettre ces sphères-là dans les trous ménagés par les deux autres. Et donc, de faire un empilement de ce type-là et d'obtenir une sorte de pyramide. Et voilà pourquoi il y a la forme du triangle. On peut déduire l'hexagone assez facilement. Et voilà pourquoi il y a cet agencement hexagonal dans le cristal de neige. C'est parce que c'est un empilement de billes toutes identiques, posées les unes à côté des autres de façon parfaitement géométrique. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire, puisque ça montre, ça propose que la forme extérieure du cristal de neige est liée à l'existence d'entités dont on ne sait pas ce que c'est, mais qui sont empilées régulièrement sur l'ensemble de l'objet considéré. Alors, à la fin de son propos, il dit que, bon, finalement, on pourrait imaginer de décrire d'autres formes, parce qu'il y a, par exemple, des cristaux de roche, que j'ai évoqués tout à l'heure, qui ont des formes parfois hexagonales, mais parfois différentes, ou d'autres cristaux, il évoque. Et on pourrait imaginer de décrire ça sur d'autres systèmes que la situation hexagonale. Donc ça, c'est, me semble-t-il, quelque chose d'absolument majeur. C'est la première description réelle d'une raison, c'est-à-dire du lien entre la forme extérieure et le côté interne. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et pourquoi la forme extérieure est-elle liée à l'intérieur ? Alors, le temps passe un petit peu. Un intervenant très important qui va suivre, c'est ce personnage, Romé Delisle. Alors, Romé Delisle, lui, il est contemporain d'une époque un petit peu particulière. Donc, il travaille au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et en fait, à cette époque, on cherchait à classer les choses, tout, et notamment les animaux, les plantes. On les classait comment ? On les classait par leur forme. Donc, les classements zoologiques d'un certain nombre de grands personnages très connus, notamment en France. Et donc, Romé Delisle, lui, il est chargé par un collectionneur qui possède une collection de à peu près 5000 cristaux qui sont au Muséum d'histoire naturelle, et de classer ces cristaux. Il faut trouver une logique, parce qu'évidemment, il ne sait pas comment les mettre en ordre. Et donc, il va proposer comme logique, la logique que fait tout le monde à ce moment-là, c'est-à-dire la forme extérieure. Et donc, essayer de trouver une certaine rationalité dans la multiplicité. Alors, il travaille à ça, et puis pour faire ça, il se rend compte qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il va falloir manipuler les cristaux de façon très importante. Alors, il faudrait imaginer une méthode qui permette d'éviter des abîmés. Donc, il va faire reproduire les cristaux en terre cuite, enfin d'abord en terre cuite, ensuite en bois, mais surtout en terre cuite. Et donc, il tombe sur un problème technologique, dirons-nous, c'est-à-dire qu'il faut qualifier ces cristaux, et en particulier, il faut mesurer les angles entre les faces, puisqu'ils ont des faces comme ça, donc il faut trouver un moyen de mesurer ça. Il va confier cette tâche à une personne, un artisan, en fait, qui, on pourrait dire maintenant un assistant, qui va construire un appareil pour mesurer les angles entre les faces. C'est Carangeau, donc qui travaille au même endroit, et il va construire cet appareil de cette façon-là. Et c'est en fait, ici, ça, ce sont des pièces qui sont conservées au muséum, au musée de Paris 6, à Jussieu, et avec la collection de minéraux. Et en fait, il taille dans des plaques ici en cuivre des formes qui correspondent aux angles observés. Et donc, il invente en fait un goniomètre. Goniomètre, ça veut dire un truc qui permet de mesurer les angles, en grec. Et donc, c'est des goniomètres de Carangeau. Ça, c'est la version plus sophistiquée qui est venue après. Mais les premières, c'est simplement des plaques. Alors, au début, c'était des plaques de carton ou de papier. Et puis, c'est devenu des plaques métalliques, en l'occurrence de cuivre, qui sont annotées avec, à chaque fois, les angles sont notés avec à quel cristal ça correspond. Alors, pourquoi je vous raconte ça ? C'est que faisant ceci, Carangeau va mesurer un très, très grand nombre de cristaux. Et il découvre un truc dont il fait part à Romé Delisle. Et ce qu'il découvre, c'est que, finalement, quels que soient les cristaux qu'on prenne, eh bien, on retrouve un certain nombre d'angles, mais pas un nombre si grand que ça. C'est-à-dire que les cristaux ont une famille de cristaux a à peu près toujours les mêmes angles. Alors il y a plusieurs angles, mais souvent on retrouve les mêmes. Et donc, il met en évidence ce que Romée de Lille va formaliser en appelant ça la loi de constance des angles, c'est-à-dire indépendamment de leur taille extérieure, les cristaux semblent avoir des angles toujours similaires. Il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas un nombre si grand que ça. Donc, loi de constance des angles. Et Romée de Lille introduit ça dans la deuxième édition de son livre « Essai de cristallographie ». Donc, ce n'était pas dans la première édition, dans la deuxième, en 1772, il introduit cette notion-là. Alors, en fait, si on regarde un petit peu la littérature d'avant, on s'aperçoit que Sthénon avait déjà formalisé ça, mais simplement pour les cristaux hexagonaux, vous voyez, une cinquantaine d'années après la proposition de Kepler. Mais c'était juste pour le cas particulier des cristaux hexagonaux. Alors, maintenant, on a compris que les cristaux ont des formes. Bon, il y a la proposition de Kepler un peu théorique, enfin, complètement théorique. Et puis, on sait que ces formes ne sont pas quelconques, puisqu'elles reproduisent des angles un peu toujours les mêmes. Alors, intervient un personnage très, très important dans l'histoire. Parfois, on dit que c'est le fondateur de la cristallographie moderne, donc René Justavi. Alors, lui, c'est un personnage assez particulier. Donc, c'est un abbé. C'est un abbé qui vit à l'époque de la Révolution française. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est à Paris. Donc, il vit à l'époque de la Révolution française et il refuse de prêter allégeance à la République. Donc, il passe tout à fait à proximité de la guillotine. Et puis, finalement, il a des protecteurs. Bon, il échappe à la guillotine. Et il a une passion, c'est la cristallographie. Bon, voilà. Donc, il s'intéresse aux cristaux. Alors, bien sûr, il connaît les travaux de Romée de Lille. Il travaille, lui, à la fois sur la collection de l'École des Mines, donc au Jardin du Luxembourg, et puis sur la collection du Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc, lui, il va essayer d'avancer un petit peu plus. Et on raconte qu'il a fait l'expérience suivante. Alors, fortuitement ou pas, je ne sais pas. En prenant un cristal de calcite, il a fait tomber ce cristal et il s'est cassé en morceaux. Et puis, il a pris les morceaux, il les a cassés en morceaux, etc. Et l'intuition géniale de Haüy, ça a été de dire, je regarde un petit morceau, je m'aperçois qu'il... Alors ça, c'est simplement l'observation du scientifique. Je m'aperçois que la forme extérieure de ce petit morceau est identique à la forme extérieure du grand. C'est la même forme. OK, c'est la même chose que ce que disaient les prédécesseurs. Mais il dit, si c'est la même forme, alors c'est que ce truc-là est constitué d'un très grand nombre de petits objets comme ça. Et donc, il imagine une notion qui est une entité de base. Si je la reproduis identique à elle-même, eh bien, je produis un cristal. Alors, il appelle ça une molécule intégrante. Il ne sait pas ce que c'est. Il n'a pas de définition de la molécule intégrante. La seule idée, c'est que le cristal est constitué d'un empilement régulier, parfaitement régulier, de molécules intégrantes. Si je suis capable de casser le cristal à une échelle plus petite que la taille d'une molécule intégrante, alors le cristal perd sa nature. Donc, c'est intrinsèque à la nature du cristal. Donc, c'est l'unité de base du cristal, la molécule intégrante. Donc, il n'y a pas de physique derrière cela, il y a une observation. Après, il va faire la chose suivante, c'est-à-dire qu'il va construire des modèles en empilant des molécules intégrantes, par exemple des petits cubes, puisqu'on ne sait pas ce que c'est, de toute façon, ça ne coûte rien. On met des petits cubes les uns à côté des autres. Et le constat de Haüy, c'est que ça marche de façon redoutable. Puisque si je regarde cet objet qui est constitué d'un grand nombre de petits cubes, eh bien, effectivement, je décris des faces qui sont absolument non quelconques, c'est-à-dire qui présentent entre elles des angles tout à fait significatifs pour peu que je définisse le nombre de choses que j'empile dans les différentes directions de l'espace. Ça marche. Et Haüy va proposer ses modèles, fabriquer des modèles, commercialiser à travers toute l'Europe des boîtes de modèles. Alors, il va... reprendre les idées de Romée de Lille, mais plutôt fabriquer en bois les choses, et donc arriver à faire des modèles comme ceci. Ceux-ci sont dans la collection de Jussieu, et qui décrivent tous les cas qu'on rencontre dans la nature, avec toutes, alors nous on va dire maintenant toutes les opérations de symétrie, mais pour lui c'est toutes les figures représentatives qu'on peut obtenir avec cette chose-là. Ah oui, il va devenir extrêmement célèbre pour ces travaux-là, parce qu'il va diffuser cette boîte de modèles à travers toute l'Europe, et ça va être utilisé dans les universités de l'époque pour décrire cet arrangement spécifique de la matière minérale. Alors Ahui, il va avoir un protecteur important, qui est Napoléon Ier, qui va le nommer, après donc la Révolution, bien sûr, qui va le nommer premier détenteur de la première chaire de cristallographie, donc à la Sorbonne, en 1803-4, je ne sais plus. Et donc, il y a quelques années, il y a eu le bicentenaire, de cette chaire de cristallographie. Alors, on n'appelle plus ça comme ça maintenant, mais ce poste a été transféré. Maintenant, c'est un poste qui est à l'université de Jussieu. Voilà, donc c'est le premier professeur de cristallographie dans une université française à la suite de ces travaux-là. Alors, vous notez que tout ça n'est que conceptuel. C'est-à-dire que c'est les idées d'esprit éclairé qui proposent de relier la forme extérieure à un assemblage d'entités élémentaires dont on ne sait pas ce que c'est. Voilà l'idée principale au travers de ces différentes époques. Donc on ne sait toujours pas ce que c'est. Le temps avance, il y a une proposition que j'ai relevée qui est particulièrement bien construite par un Anglais, donc Barlow, qui travaille, lui, qui approfondit ces notions-là. Alors, entre Ahui et puis Barlow, il y a pas mal de cristallographes qui interviennent, notamment français, mais bon, j'ai pas trop le temps de détailler tout ça, qui peaufine un petit peu la chose, qui précise la notion de molécule intégrante, qui explique un certain nombre de cas. Et puis, il y a aussi des mathématiciens qui formalisent un petit peu les idées. Je passe là-dessus. Donc Barlow qui propose de décrire les choses de façon plus précise. Donc il emploie maintenant, donc on est en 1880, il emploie le terme d'atome, il dit que c'est des empilements d'atomes, et il va décrire la structure interne des cristaux à partir de la notion d'empilement compact d'atomes. Donc en faisant ce genre de schéma, en décrivant toutes les possibilités, et la logique du raisonnement est, je prends un atome, combien a-t-il de proches voisins, c'est-à-dire d'atomes qui le touchent, dans les différents cas, qui sont tous à distance identique, et il va décrire tous les cas possibles, donc il peut y avoir 8 proches voisins, c'est cette situation-là, il peut y avoir 6 proches voisins, 12, etc. Il va décrire toutes les possibilités dans cet article dans Nature. Et il va aussi poursuivre en décrivant le fait, donc en décrivant la situation de cristaux qui, cette fois-ci, contiennent deux types d'atomes, par exemple les chlorures ou les bromures de cette façon-là, et généraliser un petit peu le concept en expliquant qu'on peut imaginer un empilement de deux objets différents qui forment quelque chose de régulier. De deux atomes de nature différente, et répéter cet empilement. Alors, donc ces deux articles sont importants parce que c'est une proposition beaucoup plus avancée, mais toujours de la même idée. D'accord ? Mais cette fois-ci, on a le concept d'atome qui est arrivé. Alors, en fait, tout ça n'est que conjecture. Aucune preuve expérimentale de ces raisonnements-là. Ils sont simplement rationnels, proposés de façon régulière. Alors, je n'ai pas le temps de vous raconter ça, mais il faut savoir que, bien sûr, il y en avait qui disaient autre chose. Alors, il y a quelque chose, juste une minute ou deux, il y a quelque chose d'assez intéressant dans l'histoire des sciences, c'est que, en fait, parmi ceux qui disaient autre chose, il y avait ceux qui considéraient que la forme extérieure des cristaux était due à une cause externe. J'ai évoqué ça dans la discussion sur Kepler. Et donc, parmi ceux-ci, il y en avait un extrêmement célèbre, c'est Socrate, donc on remonte à l'époque de Platon. Donc, Socrate, lui, disait cette forme extérieure, de toute façon, ce n'est pas un truc intéressant. Parce que on voit bien que c'est régulier, parfait, donc c'est Dieu qui l'a fait. Donc pourquoi on s'occuperait de ce qu'a fait Dieu ? Ce n'est pas important, c'est que des arguties inutiles. Inutile d'étudier les cristaux, puisque c'est la représentation de la perfection proposée par Dieu, donc il n'y a rien à dire. Ça a tenu jusqu'à la fin du Moyen-Âge dans notre civilisation. Et donc, ça a bloqué ces notions-là de façon très importante, le développement de l'étude de la matière, en particulier des cristaux. Donc, il y avait tout un courant comme ça, mais qui est, que je n'ai pas décrit parce qu'évidemment il n'aboutit pas à des résultats positifs, mais qui contrebalançait l'autre chose. Alors néanmoins, donc ces grands scientifiques là proposent quelques explications, mais n'ont aucune preuve expérimentale, au sens où on l'entend nous maintenant, de leur proposition, si ce n'est que ça a l'air de tenir la route. Et donc le tournant majeur de la cristallographie vient ensuite, il vient au virage du XXe siècle. Et donc je vais vous décrire rapidement une petite histoire qui explique ceci. Alors l'aventure se passe à Munich. Et Munich, c'est une ville un peu particulière fin 19e, début 20e, pour la physique singulièrement. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a trois laboratoires extrêmement importants, extrêmement connus. Premier, alors il n'y a pas d'ordre particulier, premier laboratoire que je cite, c'est celui de Röntgen. Alors Wilhelm Röntgen, c'est un Allemand qui a une cinquantaine d'années, qui a découvert les rayons X, fortuitement, en 1895, qui est devenu extrêmement célèbre avec cette découverte-là. Et il a eu le prix Nobel de physique, le premier prix Nobel de physique en 1901. Il travaillait à l'université de Würzburg. Il a été nommé professeur et il a eu un poste avec création d'un laboratoire, donc à Munich, prix Nobel de physique. Il a beaucoup d'étudiants, de post-doctorants, de doctorants. Tout va bien, son labo marche très bien. C'est un labo de physique expérimentale où ils essaient de travailler sur utilisation des rayons X. D'accord ? À quoi ça peut servir ? À cette époque-là, avant, c'était la nature des rayons X, mais à cette époque, c'est essayer de mettre en œuvre les rayons X dans différents types d'applications, au sens un peu général du terme. Il y a un autre laboratoire extrêmement important aussi, qui est le laboratoire de minéralogie et de cristallographie, dirigé par Peter Kraus. Donc c'est spécialiste de la minéralogie et de la description des cristaux, donc de renommée mondiale. Et puis le troisième laboratoire, c'est un laboratoire de physique théorique de Arnold Sommerfeld, spécialiste de la propagation des ondes, et donc qui travaille sur l'interprétation de la théorie ondulatoire de l'époque, à partir donc des conséquences des équations de Maxwell. Alors, ces trois labos donc sont à Munich sur le même campus, et une particularité, me semble-t-il, c'est que en fait, les gens se rendent, donc c'est des petits périmètres. Hein, et ils prennent les repas au café Lutz, qui est donc à quelques centaines de mètres de ces labos. Et donc, à cette occasion, bien sûr, ils discutent de différents projets, différentes choses, et ça va jouer un rôle important dans la suite. À cette époque, donc, au labo de Sommerfeld, il y a un étudiant qui termine sa thèse. Et le sujet de la thèse de cet étudiant, qui s'appelle donc Paul Ewald, c'est étudier la propagation de la lumière, déterminer les propriétés optiques, étudier la propagation de la lumière dans un ensemble d'anisotropes de résonateurs optiques. Voilà le sujet de la thèse tel qu'il est écrit en allemand de cette époque. Et donc c'est un sujet complètement théorique. Et puis Ewald donc, a commencé sa thèse en 1910. On est en 1912, il a quasiment terminé. Il reste quelques questions non résolues. Donc il a décrit la propagation de la lumière dans cet ensemble. Comme modèle d'ensemble de résonateurs, il a pris un cristal anisotrope proposé par Kraus. Donc, il a décrit ce phénomène-là avec les équations de la physique correspondante. Il a notamment comme problème comment tenir compte du fait que le cristal est fini, c'est-à-dire que l'ensemble périodique de résonateurs s'arrête quelque part. Comment rentrer ça dans les équations ? Donc on dirait maintenant problème d'équation aux limites. Donc il ne sait pas comment faire pour intégrer la conséquence de ce genre de considération dans son calcul. Alors il va avoir l'idée de discuter avec un jeune enseignant-chercheur, théoricien pur et dur, qui a fait sa thèse avec Planck, donc à Berlin, et qui est arrivé au laboratoire en 1909. Alors lui, c'est un théoricien, mais alors de la physique quantique, et qui s'intéresse aussi à la propagation des ondes. Donc c'est le jeune théoricien du labo de Sommerfeld, pour faire simple. Et donc, évidemment, c'est pas évident pour le doctorant d'interpeller ce personnage. Et donc, il va essayer d'organiser un rendez-vous pour essayer d'expliquer son problème pour finir son dernier chapitre de thèse. Grosso modo, c'est à peu près ça qui est raconté dans les mémoires d'Evald. Et il imagine un rendez-vous et en fait, ils vont se retrouver en marchant dans le jardin de l'université pour rentrer vers l'appartement de Laoué. Et donc, ils vont discuter. Et donc, Evald va poser la question suivante, va essayer de poser sa question à Laoué. Alors, il dit, je fais une thèse et je travaille sur l'interaction entre la lumière visible et donc un réseau anisotrope. Et comme modèle, j'ai un cristal, parce qu'un cristal, c'est composé de ça. Et c'est composé donc d'entités de façon périodique. Et là, Laoué lui dit, mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites qu'un cristal, c'est composé d'un empilement périodique? Donc c'est un peu désarçonnant, puisque en fait, c'est totalement évident, on le sait depuis 200 ans, d'après les travaux que je vous ai racontés. Grosso modo, Evald, il dit, parce que c'est archi connu depuis les travaux de Haüy. C'est comme ça qu'on représente un cristal. Et donc, Laoué, il connaissait pas du tout ce que c'était qu'un cristal. Il n'avait jamais entendu parler de ce truc-là. Donc, il dit, c'est intéressant, mais quelle est la distance typique entre vos résonateurs? Alors, Evald dit, typiquement, c'est tout petit, et ça doit être du genre de 1/1000 de fois la longueur d'onde de la lumière visible. Et donc, Laoué pose la question fondamentale, et qu'est-ce qui se passerait si la lumière que vous envoyez était de la même longueur d'onde que la distance entre les atomes? Et donc, finalement, Evald répond, je ne sais pas. Et donc, vous voyez qu'à la fin de la discussion, Evald a zéro réponse à sa question, rien avancé du tout. Mais il a provoqué, et ça, c'est réellement raconté comme ça dans les articles correspondants, il a provoqué une interrogation fondamentale dans l'esprit du théoricien qui se dit, à partir de là, si je pourrais essayer de réaliser une expérience qui consisterait à envoyer de la lumière sur un cristal, celui d'Evald, mais de la lumière qui aurait une longueur d'onde du même ordre de grandeur que la distance entre les atomes. Ça tombe bien, puisqu'ils habitent à Munich. Et quelle est cette lumière? Ce sont des rayons X, puisqu'on sait à cette époque que les rayons X ont une énergie très élevée. On a déjà mesuré des estimations de la longueur d'onde, de l'ordre de grandeur de Langström, notamment au labo de Sommerfeld. Il y a des études tout à fait académiques qui ont permis de déterminer un ordre de grandeur assez précis de ces longueurs d'onde. Donc on sait ça. Donc Laoué dit, on va réaliser une expérience en envoyant un faisceau de cette lumière sur un cristal. Alors, le problème, c'est que Laoué, c'est un théoricien, donc il ne sait pas tellement faire ça. Et donc, il va au café, il essaie de convaincre à la pause de midi les collègues, et ça va marcher. Il va réussir à convaincre deux expérimentateurs, donc notamment Friedrich, qui a fait sa thèse avec Röntgen et qui travaille dans le labo de Sommerfeld, parce que Sommerfeld, donc théoricien vraiment pur et dur, avait imaginé dans son laboratoire de construire une pièce où on ferait des expériences pour valider les théories exposées. Et donc, il y a un lieu, un laboratoire expérimental. Et donc, il a recruté quelques expérimentateurs, dont Friedrich. Donc, Laoué va réussir à convaincre Friedrich et un autre personnage qui s'appelle Knipping, qui est, lui, un spécialiste des sources de rayons X, à fabriquer un appareil pour faire ça. Il va donc décrire son idée en utilisant donc les rayons X, rayons de Röntgen. On les envoie sur le cristal et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un phénomène d'émission des rayons X, d'émission dite secondaire, c'est-à-dire que les atomes à l'intérieur de ce cristal doivent émettre des rayons X secondaires. C'est Barclay qui a dit ça en 1907 et 1909. Barclay va avoir le prix Nobel de physique en, je crois que c'est 1927, je ne sais plus, pour, oui, 1917, pardon, pour ça, ça s'appelle la fluorescence X. Donc, Laoué connaît ces travaux-là et imagine donc que ces rayons X vont interférer et que ça va donner un signal qui va l'intéresser. Cette hypothèse est totalement fausse, puisque évidemment, enfin, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais les rayons X en question de fluorescence, ils ne vont pas avoir la longueur d'onde, ils ne vont pas avoir tous la même longueur d'onde, ils ne vont pas interférer. Donc l'hypothèse de Laoué est fausse. Néanmoins, il avance dans son projet. Ils vont pas mal. Donc ça, c'est l'introduction de l'article. Donc c'est Laoué lui-même qui explique ce que je viens de dire là. Et ils vont faire la chose quand même et construire donc cet appareil, donc Friedrich et Knipping, donc une source de rayons X, un porte-échantillon, donc le cristal va être posé par ici, et puis un détecteur qui est en fait un film photographique, donc aujourd'hui on dirait un détecteur bidimensionnel, pour enregistrer le signal. Et puis un pot de plomb pour protéger tout ça. Alors, il réalise la première expérience, donc ça dure longtemps, j'ai pas le temps de raconter les détails, il réalise la première expérience réussie, donc le 21 avril 1912, sur un cristal. En fait, ils n'ont pas réussi à trouver un cristal. L'idée de la WES, c'était que ça doit fluorescer beaucoup, donc ça doit contenir des atomes lourds. En fait, ils n'ont pas trouvé de beaux cristaux comme ça. Ils ont pris, en fait, un cristal de sulfate de cuivre. Alors, la première mesure est celle-ci. Ils n'ont pas de chance parce que le cristal de sulfate de cuivre, c'est monoclinique, enfin, pour les gens qui connaissent. Donc, ça veut dire qu'il y a, en fait, il y a un très grand nombre de tâches très peu intenses, mais ils réalisent quand même le truc. Ça marche. Donc ça, 21 avril 1912, Laue voit ce signal, rentre chez lui, interprète, fait les calculs, détermine toutes les positions des tâches qui sont ici et démontre que c'est forcément dû à l'interférence des rayons X qu'on a envoyés. Donc c'est un calcul complètement théorique, la deuxième partie de la publication. Il démontre que la raison d'existence de ces tâches, c'est l'interférence d'ondes émises par les atomes à l'intérieur du cristal, si on suppose que ces atomes sont rangés de façon régulière, c'est-à-dire ce qui avait été proposé précédemment. C'est la démonstration que l'idée des anciens était pertinente et donc qu'effectivement, le cristal est constitué de cet arrangement périodique. Alors, ils continuent, hein, donc ils vont arriver à faire un certain nombre de manips comme ça et à démontrer, en réalisant l'expérience, en faisant tourner sous différents angles le cristal, ils montrent d'autres images qui, en tenant compte de la rotation qu'ils ont appliquée sur le cristal, eh bien, permet de retrouver la position des tâches. Donc, c'est qui la démonstration de l'orientation, de l'organisation périodique, mais cette fois-ci en trois dimensions. Alors, cette histoire est assez particulière. Et vous voyez que c'est, en fait, un concept complètement théorique qui a été vérifié par l'expérience après. À cette époque, c'était très rare. C'est-à-dire qu'en général, on observait un phénomène, on essayait de coller dessus des concepts théoriques. Maintenant, c'est relativement commun de faire dans ce sens-là, mais à cette époque, c'était extrêmement rare. Je pense que c'est l'une des premières expériences de ce type-là, où on a d'abord prévu le résultat et fait l'expérience qui le valide ensuite. Je crois que ce n'est pas la première, mais c'est l'une des premières progressions de la science, disons, dans ce sens-là. Alors, j'ai retrouvé cette parole-là. Donc ça, c'est un texte de Louis Pasteur. Donc Louis Pasteur, c'est un autre cristallographe important. Avant de découvrir le vaccin contre la rage, il a fait de la cristallographie sur les tartrates du vin. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Il a été nommé doyen de la fac de sciences de Lille. Et dans son discours introductif, il a dit un certain nombre de choses, notamment celle-ci qui me paraît correspondre bien à cette découverte. C'est-à-dire que, faire attention, on a l'impression d'une histoire de choses plus ou moins fortuites, mais encore fallait-il intuiter les choses au bon moment et réussir à faire l'expérience qui valide les choses. Et donc, sans doute, il fallait avoir bien compris ce dont on parlait. Alors, les choses avancent. Donc, la cristallographie moderne initiée par Romé de Lille a eu les travaux précurseurs de Kepler. Maintenant, on a les outils de la démonstration de tout ça et on a donc la possibilité d'étudier l'arrangement interne des cristaux. Donc ça va exploser de façon très, très importante dès la découverte de ce phénomène physique. Donc on est d'abord sur un phénomène physique, la diffraction des rayons X, mais immédiatement, c'est utilisé comme outil d'étude de la matière. Donc ça, c'est la suite donc, de la réalisation des expériences de Laue où ils font tourner un cristal. Cette fois-ci, ils ont choisi plus astucieusement donc, un cristal de Zedanès qui présente des symétrie plus élevée, et ils réalisent deux mesures en changeant l'orientation du cristal. Et c'est ça ce qui démontre vraiment la théorie de diffraction dans les trois directions. C'est-à-dire le même cristal irradié sous deux directions différentes donne un schéma différent, mais à partir du premier, je peux trouver le deuxième et réciproquement, en faisant des hypothèses sur les distances relatives des atomes. Intervient un personnage supplémentaire. Donc il faut en quelques secondes préciser quelque chose. C'est-à-dire qu'à cette époque aussi, juste avant la découverte de la diffraction des rayons X, donc entre 1895 et disons 1910-1911, il y avait une autre discussion qui portait sur quelle est la nature des rayons X. Quelle est la nature des rayons X ? C'était quelque chose d'assez pointu parce que on avait mis en évidence la première particule élémentaire qui a été mise en évidence, c'est l'électron, 1897 par Thomson. Et donc, lorsque les rayons X ont été découverts en 1895, on ne connaissait pas encore la nature des électrons. C'est d'ailleurs en cherchant la nature des électrons que Röntgen a trouvé les rayons X. Eh bien, Thomson découvre l'électron, enfin démontre qu'il existe une particule qu'il va appeler électron. Les rayons X, naturellement, il y a des gens qui pensent que c'est des particules un peu comme les électrons, mais qui n'auraient pas de charge électrique. D'autres pensent que c'est des ondes, et parmi les leaders de ceux qui pensent que c'est des ondes, eh bien, il y a le groupe de Sommerfeld. Parmi les leaders de ceux qui pensent que ce sont des particules, il y a un certain Bragg. Donc William Henry Bragg, c'est un prof qui travaille en Angleterre. Il a travaillé en Afrique du Sud, puis il est revenu en Angleterre vers 1907-1908. Et lui, il considère que les rayons X, ce sont des corpuscules. Il lit l'article de Laue et il essaie dans tous les moyens possibles de dire que ça doit quand même être des particules et que Laue a dû se tromper. Alors il imagine par exemple ici, donc il faut voir quand même que c'est publié dans Nature, il dit que finalement les rayons X traversent la matière solide, les cristaux, et il doit y avoir à l'intérieur des cristaux des espèces d'avenues qui laissent passer les rayons X comme ça, en les déviant un peu, et c'est quand même des particules. Bon, il commence à comprendre que ça ne tient pas la route, mais là on est quand même le 24 octobre 1912. Alors, autre personnage qui intervient très rapidement, c'est William Lawrence Bragg. Donc William Lawrence Bragg, alors lui, c'est tout à fait extraordinaire. Donc il a 22 ans en 1912. Il vient de terminer sa thèse à Cambridge. Et il lit l'article de Laue et il dit c'est faux. C'est pas possible, il s'est trompé. Donc pourquoi c'est faux ? Il conteste le fait que les atomes fluorescent. Il dit pas que c'est faux que les atomes fluorescent, mais il dit les ondes fluorescées par les atomes ne peuvent pas interférer parce qu'elles n'ont pas tous la même longueur d'onde, donc Laue s'est trompé. Il fait une communication donc, à l'Académie de Cambridge et il présente un article assez volumineux qui reprend toute la théorie de la diffraction. Il appelle son article de la diffraction d'onde courte. Vous voyez qu'il n'emploie pas le mot rayons X, qui permet de ne pas se fâcher avec son père. Et donc, il va, à partir de ça, décrire complètement le phénomène d'interaction, mais recalculer en supposant que les rayons X émis ne sont pas dus à de la fluorescence, mais sont dus en fait à la diffusion par les électrons des atomes des rayons X. Pourquoi il dit ça ? C'est parce que la diffusion des rayons X par les électrons, ça a été étudié par Thomson, 1896-17-18, et donc c'est connu à cette époque-là. On sait déjà calculer l'intensité diffusée par un électron. Un atome, il y a des électrons autour, on a un modèle d'atome qui est assez... qui tient à peu près la route, et donc il arrive à faire ça en supposant que les atomes sont associés à un facteur de diffusion. Donc il refait complètement l'article et il établit des lois qui sont en fait les mêmes que celles de Laue, mais qu'il écrit différemment. Alors en particulier, il va donc proposer que l'interprétation de Laue est fausse, et pourquoi Laue s'est trompé, c'est parce qu'il a oublié de penser que son faisceau était polychromatique, et effectivement le faisceau utilisé par les expérimentateurs de Munich était un faisceau polychromatique, ce qui explique qu'il y avait ce type d'interférence de cette façon-là. Donc le résultat important, c'est celui-ci. Mais il y a un deuxième résultat important, c'est qu'il va calculer la direction des faisceaux diffractés et établir cette relation. Et alors là, c'est assez marrant. Donc il établit cette relation à partir de la théorie ondulatoire des collègues allemands. Mais il va la décrire comme si c'était un phénomène de réflexion. Donc comme si on pouvait assimiler ça à de la réflexion de particules sur un plan dense d'atomes. Donc il va appeler ça la réflexion des rayons X, en disant, voilà, je prends un plan dense d'atomes, j'envoie les rayons X, ils sont réfléchis, mais il y a un phénomène d'interférence dans les ondes réfléchies, associé à ce phénomène de réflexion. Alors, ils vont construire, donc ça c'est le père, il va construire cet appareil qui va permettre de valider leur concept en associant donc, au processus. Donc, ils vont avoir l'idée assez intéressante de prendre des cristaux qui sont des cristaux dits clivés. Alors les cristaux clivés, c'est des, donc ils sont coupés naturellement selon une face dense d'atomes. Et donc en posant ce cristal sur un porte-échantillon, en fait, la face externe et la face interne, enfin la face arrière et la face avant sont parallèles. Donc si on le pose dessus, finalement, on peut faire réfléchir les particules du père Bragg, si je puis dire, sur un plan dense d'atomes. Et donc ça fait la même chose que si on fait réfléchir, si on fait interférer les ondes de la Wave. Donc ils vont faire un appareil comme ça, qui est celui-ci, qui est le deuxième diffractomètre à rayons X, deuxième type de diffractomètre à rayons X, donc porte-échantillon par ici, porte-source de rayons X qui n'est pas ici présente sur l'image, elle est posée ici, le porte-échantillon est ici, et puis ça c'est un détecteur, et l'apport majeur de cet appareil, c'est ce détecteur. Ils vont utiliser un détecteur à gaz, pourquoi ? Parce qu'on sait à cette époque que le gaz est ionisé par les rayons X. Si je mesure le courant électrique produit par cette ionisation, j'ai quelque chose qui est proportionnel à l'intensité. Donc ils vont faire des mesures d'intensité diffractée. C'est les premières. C'est nouveau par rapport à la Wave. Et ils vont établir ces choses-là qu'on appelle des diagrammes de diffraction des rayons X, c'est-à-dire évolution de l'intensité en fonction de l'angle d'incidence du faisceau de rayons X sur la surface du cristal, puisqu'ils considèrent que c'est de la réflexion. Et nous, on sait que c'est sur en fait, les plans atomiques, mais qui sont parallèles à la surface du cristal. Donc évidemment, c'est pareil. Mais du point de vue physique, ce n'est pas du tout pareil. Et on mesure ceci, et à partir, donc l'apport majeur de Bragg, cette fois-ci père et fils, ça va être la chose suivante, c'est-à-dire qu'ils vont interpréter quantitativement l'intensité qu'il y a dans ces pics et déterminer la nature interne exactement, c'est-à-dire la position des atomes à l'intérieur des cristaux. Donc la Wave a démontré qu'il y avait diffraction, c'est-à-dire interférence des ondes, d'accord ? Les Bragg vont utiliser ce phénomène physique pour déterminer la nature et la position, surtout la position, des atomes dans un certain nombre de structures, de ce qu'on va appeler les structures cristallines. Pour ce travail, ils vont obtenir le prix Nobel de physique en 1915, donc un an après le prix Nobel de la Wave. La Wave découverte 1912, prix Nobel 1914. Vous avez compris pourquoi en 2014, c'est l'année internationale de la cristallographie. C'est fondateur de la cristallographie moderne. Donc 1913-1914, première résolution de structure, c'est 1913. Beaucoup de papiers ensuite paraissent en 1914. Prix Nobel de physique de Bragg, père et fils, 1915, pour, non pas pour la diffraction des rayons X, mais pour la détermination de la structure cristalline d'un certain nombre d'objets. Et ils vont monter toute une équipe qui va se mettre à résoudre tout un tas de structures de plus en plus complexes. On va y venir dans un instant. Alors, juste un petit point. William Lawrence Bragg donc, obtient le prix Nobel de physique à 25 ans. C'est actuellement toujours le plus jeune prix Nobel qui a jamais... Enfin, le prix Nobel qui a été décerné à la personne la plus jeune, c'est toujours lui. D'accord ? Alors, petite anecdote plus triste. En fait, il était sur le front de la guerre 14 et il était en France quand il a reçu le prix Nobel. Donc, il l'a eu que quelques années plus tard. Voilà. Alors, donc, vous voyez, phénomène physique... Utilisation du phénomène physique pour étudier la matière condensée. Très rapidement, les choses avancent. On est 1912, 13, 14, ça va très très vite. Et ici, ça, c'est les premières mesures. Donc là, on franchit un autre pas très important. C'est en fait l'étude d'objets, mais qui contiennent plusieurs cristaux. Donc ça va être la diffraction sur un échantillon, un objet polycristallin. Donc cette expérience est réalisée en 1916, en fait, à la fois aux États-Unis et toujours en Allemagne, par Debye et Scherer en Allemagne et Hull aux États-Unis. Et ça va ouvrir une autre porte. Pourquoi j'ai pris ce marqueur ? Parce que celui-là, il ouvre une autre porte qui est en fait l'utilisation des rayons X pour étudier la matière réelle. Parce que dans la pratique, la matière qui nous entoure, il y a plein de cristaux partout, mais c'est essentiellement des objets polycristallins. Et c'est assez rare de rencontrer un monocristal. Bien sûr, ça existe, mais dans les applications concrètes, la très, très grande majorité des objets sont des objets polycristallins. Ces expériences ouvrent l'usage de la diffraction des rayons X et donc de la cristallographie moderne à l'étude des matériaux. Donc ça va être très, très important, notamment en métallurgie, puis après pour tout un tas d'autres matériaux. Une étape essentielle qui arrive quelques années plus tard, c'est le passage à la biologie. Alors on passe d'abord aux matières organiques, puis aux matières organiques vivantes. Et une étape tout à fait essentielle qui est établie par des élèves, en fait, des élèves de Bragg, qui va être la découverte de la structure de l'ADN. Donc, alors ceci est réalisé donc, en 1953. Ces trois personnages obtiennent le prix Nobel pour avoir démontré que la structure de l'ADN est une structure en double hélice. Et c'est le marqueur de l'ouverture de la cristallographie à la biologie. Alors en fait, cette étude, donc la première mesure par diffraction des rayons X sur un cristal d'ADN, donc il faut faire croître un cristal, hein, bien sûr, parce que naturellement, ce n'est pas cristallisé. Il faut faire croître le cristal, puis faire l'étude en diffraction des rayons X. Donc le premier cliché, c'est celui-ci. La personne qui a interprété ce cliché, c'est une spécialiste de diffraction des rayons X, Rosalind Franklin, qui a donc montré que ceci correspondait à la double hélice que j'ai montrée tout à l'heure. Cette personne est décédée assez jeune, à 37 ans, était décédée lorsque les autres personnages ont eu le prix Nobel. Et puis, il y a toute une histoire. Ils lui ont plus ou moins puté des résultats. Enfin, tout un débat sur cette question-là. Il y a notre collègue qui fait une conférence centralisée sur cette discussion et cette propriété ou plus ou moins propriété de résultats scientifiques. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a toute une histoire assez intéressante. Quoi qu'il en soit, c'est bien Rosalind Franklin qui, la première fois, a proposé ce modèle-là. Et ensuite, ça a été utilisé pour faire... Mais vous voyez que c'est les mêmes époques. Hein, à une ou deux années près, c'est de là que vient la controverse. Il y a deux choses. C'est-à-dire, d'abord, elle était décédée. Deuxièmement, on ne peut pas avoir plus de trois personnes qui ont un prix Nobel. Pour avoir un prix Nobel, il faut être vivant. Donc, de toute façon... mais quand même. Alors, voilà, le temps passe. Je vais bientôt finir la conférence, mais on avance aussi dans le XXe siècle. Et marqueur suivant, me semble-t-il, c'est quelque chose d'assez curieux. Donc, en 1982, il y a un personnage qui s'appelle Dan Sheshman, Daniel Sheshman, qui est israélien, mais qui travaille pas mal au MIT, c'est un chimiste, en fait, qui fait de la synthèse de métaux dans des conditions un peu exotiques. Et il réalise un truc bizarre, c'est-à-dire qu'il trouve... ce type de cristaux, donc ça, ce n'est pas une photo du cristal de Sheshman, mais c'en est une autre, peu importe. On montre, quand on fait de la cristallographie, que si on se place dans l'espace qui nous entoure, c'est-à-dire qu'il y a trois dimensions, eh bien, les cristaux ont des arrangements qui correspondent à des symétries qui ne peuvent pas être 5. Donc, ils peuvent être 2, 3, 4 ou 6, mais pas 5 ni 7. D'accord ? C'est mathématiquement pas possible. C'est facile de montrer ça, j'insiste pas. Et mais lui, il trouve cet objet qui est furieusement présente un truc à 5 côtés. Quoi. Et donc, il essaie de comprendre ce que c'est. Donc, il commence par avoir quelques soucis parce qu'on lui dit qu'il faut qu'il révise. C'est un microscopiste aussi, donc il fait de la microscopie. Il essaie d'étudier ça et il trouve ce cliché de diffraction des électrons. Et ce cliché de diffraction des électrons présente une symétrie 10, c'est-à-dire deux fois l'ordre 5. Et il va être interprété donc, par ces quatre personnages, le responsable du groupe qui est Kahn, et puis Sheshman qui est là, et puis Blech, et Denis Gracias qui est ici, qui est un Français, qui est donc lui aussi en séjour au MIT et qui est plutôt un cristallographe mathématicien. Toujours chercheur au CNRS, enfin, directeur de recherche, et qui arrive avec Kahn à interpréter ce cliché comme étant bien dû à l'ordre atomique, mais cet ordre atomique, pour rendre compte de cet cliché de diffraction, on doit le décrire, non pas dans un espace de dimension 3, mais dans un espace de dimension 6. Le monde qui nous entoure étant alors la projection de l'espace de dimension 6 sur l'espace de dimension 3. Donc, il y a un petit arsenal mathématique qui permet de faire ça. Denis Gracias écrit tout ça. Et ils font une publication qui est ici, qui est extrêmement célèbre, citée près de 4000 fois, qui introduit donc l'interprétation et donc la généralisation de la cristallographie à un espace supérieur à la dimension 3. Alors... on appelle ça les quasi-cristaux, donc il y a toute une histoire que, évidemment, il appartient à Denis Gracias de raconter. Il le fait très bien. Simplement, il y a un point qui concerne l'ensemble des cristallographes, c'est que ceci conduit à donner une nouvelle définition du cristal. Donc le cristal n'est plus, depuis 1992, le cristal, ça n'est plus la répétition tridimensionnelle d'un arrangement d'atomes. Non, le cristal, c'est ça. Voilà, parce que ça, c'est l'étape de la loi, c'est l'étape internationale de cristallographie. Et donc, défini ici, un cristal, donc c'est un solide auquel on peut associer un diagramme de diffraction présentant essentiellement des pics. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc évidemment, si vous n'êtes pas très cristallographe, ça doit vous paraître bizarre. Mais c'est ainsi, un cristal, c'est cet objet-là. Et c'est actuellement, bien sûr, la définition qui est utilisée donc, depuis 1992 par l'ensemble du monde de la cristallographie. Donc ce qui permet d'inclure les quasi-cristaux dans ce formalisme. Je vais citer ici Hubert Curien. Donc Hubert Curien, ministre de la Recherche, en 1990, a ouvert le Congrès international de cristallographie à Bordeaux. Et il a introduit dans son discours inaugural une notion qui, à cette époque, n'était pas si usuelle pour les cristallographes, bien connue des métallurgistes, mais peu développée par les cristallographes purs et durs, qui est que, sans doute, pendant longtemps, on a travaillé à essayer de comprendre les propriétés physiques associées à la perfection de l'arrangement interatomique dans les cristaux, mais que peut-être les propriétés à venir, ou au moins l'exacerbation de certaines propriétés, il fallait les chercher dans l'étude des défauts. Et ça, c'est très, très important, parce qu'on sait bien actuellement que toute la microélectronique moderne, l'optoélectronique et la métallurgie sont basées plutôt sur quelque chose qu'on pourrait appeler l'ingénierie des défauts. Dernier clin d'œil, donc... Un siècle après la découverte de la diffraction des rayons X, a été réalisé le premier diagramme de diffraction des rayons X extraterrestre, donc réalisé sur la planète Mars par ce robot qui est équipé d'un diffractomètre à rayons X. Et donc la mesure est arrivée le 17 octobre 1912. Voilà le cliché de diffraction des rayons X sur échantillon polycristallin, donc qui est un morceau de roche de la planète Mars. C'est très important parce qu'en étudiant ce type de cliché, on peut déterminer la nature de la roche. Et donc, en particulier, il est assez facile de montrer que sur cette série de clichés qui a été réalisée, on montre que ce sont des argiles, des phyllosilicates, ce qui est un élément de preuve de l'existence de l'eau passée, bien sûr, sur la planète Mars. Voilà. Merci de votre attention.
Merci beaucoup pour cette histoire passionnante de la cristallographie à travers les siècles, racontée avec beaucoup d'enthousiasme. Donc je vous invite à faire des commentaires ou à poser des questions. Je vais peut-être me lancer. Je voudrais revenir sur l'époque pré-moderne, avant la découverte des rayons X. Tu nous as raconté une histoire très européenne. Ouais. Est-ce que tu as eu vent de concepts ou d'idées dans d'autres civilisations en arabe ou en Asie, au Moyen-Orient?
Alors, la réponse est non. Je crois qu'on ne connaît pas d'aspect comme ça sur l'Extrême-Orient, alors que peut-être on pourrait penser que dans la civilisation chinoise, par exemple, je crois qu'on n'a pas tellement de traces de ça. Alors, quant à la civilisation arabe, en fait, c'était surtout des maths, quand même. Et donc les développements, il y a des développements qui sont utilisés par les cristallographes qui datent de cette époque, mais pas sur la description des cristaux, quoi. Plutôt pas sur la description au sens où je l'ai faite là, plutôt sur la symétrie. La symétrie qui est utilisée en cristallographie emprunte aux mathématiciens arabes, avant l'expulsion des Arabes de l'Espagne, quoi. Enfin, je veux dire, mais plutôt ça, sur la symétrie. Les opérations de symétrie, les choses comme ça. Donc quelque chose dont je n'ai pas vraiment parlé ici. Alors je ne connais pas de travaux, mais bon, je ne connais pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, mais je ne connais pas de travaux d'Extrême-Orient sur ces questions-là.
Oui, ben merci beaucoup pour ce tour d'horizon, fort intéressant. Et je voudrais revenir sur la définition d'un cristal. Parce que moi, j'ai fait un certificat de cristallographie dans les années 60 à Strasbourg avec un certain Stanislas Goldstaub, qui était un nom à cette époque-là, notamment de l'utilisation de la diffraction des électrons pour les phyllosilicates, entre autres. Et ça m'est resté en mémoire, la définition d'un cristal, ou mieux la matière cristallisée, parce qu'il différenciait les deux. C'est doté de propriétés vectorielles discontinues. Ouais. C'est la définition que j'ai apprise dans les années 60. Ouais. Est-ce qu'elle est toujours applicable?
Bah, Oui, oui, oui. Si
a priori,
vous,
si
on dit ça à quelqu'un comme Denis Gracias, il va dire oui, c'est évident. J'avais posé une question un peu différente, mais côté enseignement. Et effectivement, donc dans un espace vectoriel, on peut mettre le nombre de dimensions qu'on veut, donc on peut définir, et c'est effectivement quelque chose de discontinu. C'est le sens de essentiellement d'EPIC, quoi. Donc c'est le sens, oui. C'est le sens de l'association de essentiellement à d'EPIC. Donc effectivement, c'est essentiellement discontinu, c'est pour ça qu'il y a essentiellement d'EPIC. Donc ça va bien, ça va bien. Donc Denis Gracias répondrait à ce genre de truc, je crois, bah oui, c'est évident. D'ailleurs, si on connaît bien la théorie des groupes et la géométrie vectorielle, toute la cristallographie est dedans, donc il n'y a plus rien à faire. Il enseignait la cristallographie à l'école polytechnique. Je ne suis pas sûr que nos étudiants dans nos provinces, il faille attaquer le truc comme ça. Mais donc c'est, effectivement, je suis d'accord. Ça doit coller.
Oui, et puis un deuxième point, ça concerne justement les quasi-cristaux. Et il y a quand même un chimiste qui a tiré avec l'artillerie lourde contre les quasi-cristaux. Oui. C'est Linus Pauling.
Oui.
Alors savoir que Linus Pauling avait déjà raté la double hélice,
oui.
Ça l'avait un peu meurtri, alors qu'il avait déjà eu le prix Nobel en chimie.
Oui, alors c'est tout à fait vrai. Donc parmi les détracteurs de ce concept, bon, c'est quand même un concept un petit peu compliqué. Donc en fait, le problème, c'est que on pouvait l'interpréter d'une des gens fort compétents en cristallographie, ont proposé de l'interpréter comme étant un signal dû à plusieurs cristaux qui diffractent de façon simultanée, mais qui ont des orientations entre eux absolument non quelconques, qu'on peut décrire géométriquement, et donc c'est ce qu'on appelle des macles, mais il faut mettre des séries de macles un peu particulières. Donc il se trouve que ça a été le raisonnement poussé effectivement par Pauling. Il se trouve que un appareil qui permet de montrer, d'infirmer ou de confirmer cette hypothèse, c'est le microscope électronique en transmission, parce qu'on peut faire des clichés de diffraction sur des petites zones, extrêmement petites. Et donc, c'est ce qui a été fait par Daniel Scheichmann. Donc, ce qui fait que ça tendait à montrer que le truc de Pauling était faux. Alors, évidemment, le personnage ayant déjà le prix Nobel, ça n'a pas été facile. Et ce qui, donc, la conséquence directe était que la communauté scientifique de cristallographie aux États-Unis n'a pas travaillé sur les quasi-cristaux, ce qui fait qu'en Europe, il y avait de la place pour les chercheurs, et donc sans doute que les développements qui ont eu lieu là-dessus, actuellement, la France est encore très bien placée sur cette question-là, bon, il y a aussi des Japonais, c'est sans doute lié à ça. Donc on peut remercier Pauling de ce côté-là, puisque finalement, il a dissuadé les chercheurs nord-américains d'investir du temps sur cette question.
Oui, ça signifie qu'on peut être prix Nobel et se planter complètement, oui. Mais surtout user de son aura de prix Nobel pour contrer de jeunes chercheurs.
Il a dit une phrase terrible, il a dit il n'y a certainement pas de quasi-cristaux, mais il y a peut-être des quasi-scientifiques.
Exactement. Donc,
mais bon.
Oui, alors tu ne peux pas tout dire dans ta conférence, hein, très intéressante, mais tu as fait la part belle aux rayons X, mais il n'y a pas eu que les rayons X pour l'étude des cristaux. Il y a eu un autre type de diffraction, qui est la diffraction électronique. Tu viens d'en dire deux mots avec les microscopes électroniques, où il y a eu on a retrouvé la loi de Bragg par diffraction électronique de façon accidentelle, hein, avec des machines qui ne marchaient pas, etc. Et aujourd'hui, le phénomène de diffraction électronique est un grand classique dans tout ce qui concerne les films minces ou les choses comme ça. Est-ce que...
Oui, alors, bon, bien sûr. Alors, bon, d'abord, ceux qui me connaissent savent que j'ai un tropisme vers les rayons X. Donc, bon, ceci peut-être pourrait expliquer cela. Mais si c'est le président de l'Association française de cristallographie qui parle, alors je suis tout à fait d'accord. Et donc, effectivement, bon, c'est un petit peu... c'est cette, donc, il est clair... Bon, quand on parle dans le domaine de la physique des matériaux, c'est complètement évident qu'on peut utiliser différents rayonnements pour faire de la cristallographie, des rayons X, des électrons, des neutrons, et que tout ça donne des signaux de diffraction ou de diffusion plus ou moins cohérente qu'on peut étudier pour comprendre la nature interne des cristaux. Donc, dans le domaine physique des matériaux, physique, ça marche bien. En fait, ces notions-là sont moins bien... prise en compte dans les autres domaines. Par exemple, les biologistes. ont du mal à dissocier diffraction des rayons X et cristallographie. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est historiquement comme ça. Moi, j'ai essayé de généraliser un peu, mais ce n'est pas si facile que ça. Donc quelque chose qui, en science des matériaux, par exemple, paraît très naturel, ce que tu viens de dire, là, en fait, n'est pas vraiment commun dans les autres disciplines, singulièrement en biologie. Alors il y a une raison, hein, c'est que les matériaux biologiques sous le microscope, c'est quand même beaucoup plus récent, c'est un peu différent. Et même les chimistes du solide, en fait, mélangent facilement diffraction des rayons X et cristallographie. Donc c'est évidemment pas correct, hein. C'est bien sûr pas correct, mais c'est la communauté, c'est pas français, hein, c'est la communauté internationale qui est un peu comme ça. Alors en fait, si on regarde à l'échelle de l'Union internationale de cristallographie, les différentes commissions rendent compte exactement de ce que tu dis, c'est-à-dire une commission de microscopie électronique, il y a une commission de RMN, il y a une commission de diffraction de neutrons, de diffusion de neutrons, il n'y a pas du tout la part belle aux rayons X. Mais ceci n'est pas si classique dans nos laboratoires au sens un peu général interdisciplinaire. Donc évidemment que c'est ainsi. Première partie de la réponse, j'ai encore quelques minutes. La deuxième partie de la réponse, en fait, c'est assez intéressant ça, parce que je pense qu'on est en ce moment dans une situation un peu particulière, si je reviens à la science des matériaux ou la physique des matériaux. Il y a une complémentarité naturelle qui est apparue au cours des, disons, 40 dernières années, c'est de dire, finalement, en diffraction des rayons X, en diffraction et en diffraction des électrons, on étudie la même chose, mais si on le met dans le microscope électronique, on étudie la chose à l'échelle très locale, parce qu'on a une petite taille de sonde, on voit ce qui se passe. Si on regarde en diffraction des rayons X, on voit quelque chose de, on voit la même chose, mais en mettant beaucoup plus de matière sous le faisceau rayons X. Eh bien, en fait, c'est assez intéressant parce qu'en ce moment, ceci est en train d'être faux. C'est-à-dire qu'on fabrique des faisceaux de rayons X de plus en plus petits. Et finalement, cette distinction ne va bientôt plus vraiment être très significative. Ce qui fait que, justement, on va reposer la question de façon plus générale, parler de diffraction, que ce soit ceci ou cela. Alors, évidemment, il y a des différences, mais que ce soit ceci ou cela. Et je pense que c'est intéressant. On peut décrire ça globalement en utilisant des sondes, non pas forcément de taille, mais de nature différente, et donc chercher des informations un peu plus subtiles avec telle ou telle sonde. Mais ça, c'est quand même très physique des matériaux physiques. Pour faire avaler ça aux biologistes, il va falloir un peu de temps, mais ça va venir.
Juste un tout petit mot. Il y avait un radiocristallographe qui s'appelait, Marcel de Breuil, le frère de Louis de Breuil, qui faisait des rayons X et qui a induit les idées de son frère, qui a eu des conséquences assez considérables, puisque c'est la loi de de Broglie qui montait que les électrons ou les particules étaient aussi des ondes, ouais, et qu'on pouvait diffracter de la même façon que les rayons X.
Oui, je connais un peu ce truc, mais je n'ai pas...
Tu ne peux pas tout faire.
Une autre question, un commentaire? Oui, Jacques.
Simplement un commentaire. Je trouve que l'histoire de la cristallographie est intéressante dans la mesure où, par exemple, au temps de Laue et compagnie, là, on collaborait de façon assez sympathique, alors que pour l'ADN, il y avait déjà les prémices de ce qui se passe aujourd'hui. Mais quand même, au niveau de l'ADN, il y a eu deux articles dans Nature, dans le même Nature, où il y avait la structure de l'ADN par Crick et Watson, et un deuxième papier avec les gens de Cambridge qui avaient... Les rayons X.
Oui, tout à fait. Ça c'est... Bon, c'est très, très impressionnant, cet aspect publication, vitesse de publication, séquence de publication, collaboration ou affrontement. Donc j'ai une autre conf qui est centrée sur les rayons X et sur la diffraction des rayons X, où je raconte un peu ça. Effectivement, c'est très impressionnant, ce truc-là. Bon, alors je crois qu'en fait... quand on regarde ça, on se dit bon. Mais en fait, c'était des très bons quand même. Il faut se dire ça, quoi. C'était vraiment des très, 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 très bons, quoi. C'est-à-dire que pour se dire qu'à cette vitesse, il n'y avait pas Internet, Google, machin, ils étaient quand même. J'ai essayé de comprendre un peu ces processus-là. Et en fait, ce sont des gens qui se retrouvaient souvent. C'est-à-dire qu'ils faisaient des espèces de conférences et ils étaient tous présents, ces groupes-là, autour des choses. Et donc, en fait, c'était les discussions. Bon, c'est par exemple les conférences Solvay ou des trucs comme ça, mais pour la cristallo, c'est un petit peu différent. Et en fait, c'était peu de gens qui se voyaient souvent. Et pour nous, maintenant, quand on regarde ça, c'est effectivement très étonnant. Je crois qu'ils étaient très bons, et en fait, ils se voyaient. Ils parlaient l'anglais, le français, l'allemand entre eux. C'est curieux, hein, ces trucs vidéo. Alors je suis d'accord, c'est la vitesse, tout ça. C'est... Mais bon, ils étaient très bons.
Y a-t-il une autre question dans la salle ? Non ? Annie ?
Je voulais quand même te demander, je m'attendais, donc j'étais un peu étonnée à ne pas trouver Fourier dans ton exposé, parce que nous, maintenant, tout ce qui est diffraction, on parle toujours de l'espace de Fourier, toutes ces choses-là. Ouais. Et ben, je voulais te demander un petit peu un avis sur son importance historique. À quel moment est-ce que ça a joué d'avoir cette analyse ou...
Alors, la réponse complète à la question serait un peu longue. Je vais répondre quand même. Donc... Alors, j'ai regardé ça avec un peu d'attention. Bon, il se trouve qu'il y a un collègue, là, dans le cadre de l'année internationale de la cristallographie, qui fait une conférence spécialement sur cette question, c'est-à-dire sur le rôle de Fourier dans cette histoire. D'accord ? Donc, c'est Sylvain Ravi du Labo de physique du solide. Donc, il a une conférence, elle est disponible sur le site de l'AICR, là, vous pouvez la regarder. Et c'est très, très intéressant. Donc, il est lui-même spécialiste de la question et de la résolution de ce type d'équation. Donc, bon, mais en quelques mots. Donc, en fait, où est-ce que ça intervient ? Ça intervient dans le lien qu'il y a entre le signal de diffraction et l'interprétation sur quelle est la nature et la position des atomes. Donc actuellement, évidemment, on utilise à tour de bras ce formalisme. Eh bien, la question, c'est est-ce que ça a été utilisé dès le début ? C'est-à-dire comment les Bragg et les quelques autres qui travaillent avec eux, ont résolu les premières structures. La réponse est non. Ils ont résolu sans utiliser le formalisme de Fourier. C'est vers 1915-1916 qu'est intervenue l'utilisation de ce formalisme. Les premières structures ont été résolues sans ça. Et en fait, ils ont fait... Donc c'est très compliqué. Hein, pour eux. Mais bon, ils ont décrit des structures simples. Donc d'abord, le diamant, donc un seul type d'atome... Ils ont dit, on met l'atome, c'est un centre de diffusion, on essaie de dire que c'est sur un cube, et on fait les différentes hypothèses, en s'appuyant sur les travaux de Barlow, sur l'environnement proche. Et ils ont réussi à décrire l'intensité en calculant dans l'autre sens, non pas dans le sens inversion de Fourier, mais dans le sens construction du spectre. Mais parce que c'était simple, et en fait par un essai-erreur. Ils ont réussi NACL aussi comme ça, en disant qu'il y avait une... combinaison particulière et en regardant qu'est-ce qui se passait quand on remplaçait le sodium par le potassium, donc NaCl, KCl, c'est les Bragg, hein, avant Fourier, avant l'utilisation de Fourier. Et donc, c'est venu un petit peu après. C'est simplement une description beaucoup plus ardue, mais sur des trucs simples. 1915, je crois, l'introduction du concept de série de Fourier pour décrire l'intensité. Mais allez écouter la conf de Sylvain Ravi, c'est extraordinaire. Il explique ça en détail, mais bon, ça dure une heure aussi.
J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Donc, ouais, on va te remercier de nouveau pour cette présentation, cette conférence. Et puis, je voudrais rappeler qu'il y a encore beaucoup de manifestations dans le cadre de l'année internationale de la cristallographie. Vous avez plein d'infos sur le site de l'AICR et qu'il y a notamment une exposition à visiter à l'Espace Mendès France qui s'appelle Voyage dans le cristal et qui est exposée jusqu'au 19 octobre. Voilà. Bah, merci à tous et bonne fin de soirée.
D'animateur de la soirée. Comme j'ai des difficultés à me déplacer, c'est gentil à vous. Pas de soucis.